Nous sommes ici avec M. Janvier Kourounziza, chef de la section recherche et analyse des produits de base à la CNUSET. La CNUSET qui vient de publier un nouveau rapport par rapport à la situation des produits de base. Mais que nous dit concrètement ce rapport sur les matières premières?
Ce rapport, en fait, nous dit beaucoup de choses. D'abord, il nous dit que les prix des produits de base sont assez bas pour le moment et qu'il y a une forte chance qu'ils le restent pendant quelques années. Le deuxième message, c'est que cette situation a une influence sur la croissance des pays et puis leur capacité à pouvoir réaliser les objectifs du développement durable. Ce rapport aussi nous donne beaucoup d'études de cas qui essaient de montrer comment certains pays s'y sont pris. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont échoué. Et c'est très intéressant de comparer les échecs et les succès, parce que cela vraiment donne beaucoup plus d'informations aux décideurs politiques pour savoir peut-être ce qu'ils pourraient faire et ce qu'ils devraient éviter comme erreur.
Et avant de revenir sur ces recommandations, on revient d'abord sur l'une des idées de ce rapport. Quand le rapport dit que les prix des produits de base, notamment les prix alimentaires, resteront à leur niveau de 2010, cela veut dire quoi concrètement?
Cela veut dire que les prix ne vont pas augmenter beaucoup. C'est-à-dire que vous vous souvenez qu'il y avait des prix qui ont fortement augmenté en 2007-2008. Cela a causé beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays, surtout les pays qui dépendent des importations alimentaires. Dans 3 douzaines de pays, il y a eu des émeutes. Et donc, ce que ce rapport dit, c'est que les prix vont rester relativement bas. Quand je dis relativement bas, ils sont plus élevés par rapport au niveau des années 80, au niveau même des années 90, mais ils ne vont pas être aussi élevés que ce qu'ils étaient en 2007-2008.
C'est-à-dire que nous sommes à l'abri d'éventuelles émeutes de la faim?
Non, on n'est pas nécessairement à l'abri, et c'est cela qu'il faut comprendre quand on lit un rapport comme ça. Ce rapport présente des résultats agrégés. Il peut y avoir l'un ou l'autre produit qui puisse sortir du lot et avoir des prix qui sortent de l'ordinaire. Mais en général, les prix vont être assez bas. Mais je le dis avec beaucoup de précautions, parce que même maintenant, il doit certainement y avoir des gens qui ont des problèmes à pouvoir avoir accès à la nourriture, même avec des prix qu'on qualifie de bas. Mais on les qualifie par rapport à leur niveau d'il y a 10 ans, c'est-à-dire 2007-2008. Et c'est cela qu'il faut voir. Si vous êtes intéressé par un produit particulier, il faut étudier le produit en particulier. Si vous vous intéressez au riz, oui, là, il faut analyser la dynamique du riz. Si c'est le maïs, oui. Mais en général, ce que nous avons trouvé, c'est que ces prix ne vont pas être trop élevés. Mais encore une fois, il y a quelques conditions. C'est les conditions, par exemple, au niveau des négociations de l'OMC. Qu'est-ce qui va sortir de ces négociations? Cela peut influer sur les prix ou bien au niveau du changement climatique. S'il y a de gros changements d'ici 10, 15 ans, ça peut beaucoup influer par les prix. Un autre élément que j'aimerais ajouter, c'est qu'il peut y avoir des effets régionaux. Parce qu'au sein même d'un pays, surtout les grands pays, il peut y avoir une disette dans une partie du pays, alors qu'il y a abondance dans une autre partie du pays. Donc quand on dit des prix bas, cela ne veut pas dire nécessairement que la nourriture va être disponible à prix bas partout dans toutes les parties du pays. Non, cela dépend aussi d'autres choses, comment le transport s'organise, comment les marchés internes s'organisent. Mais ce que nous trouvons, c'est un résultat plutôt général.
Et dans vos recommandations, c'est-à-dire au regard de ces prévisions, quand vous insistez sur une diversification de l'économie pour ces pays, que voulez-vous démontrer?
En fait, ce que nous démontrons en fait dans ce rapport, c'est que la dépendance des produits de base est négativement associée au bien-être, au développement humain. Ça, on l'a démontré dans ce rapport. Alors, quand vous dépendez des produits de base, vous savez que les prix vont être élevés. Quand les prix des produits de base sont élevés, votre économie va croître. Et quand c'est l'inverse, l'économie va être dans de sérieuses difficultés. Alors, ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut vraiment essayer de diversifier l'économie. Il ne faut pas dépendre juste d'un seul secteur. Et beaucoup de pays ne dépendent pas seulement d'un secteur, mais d'un produit ou de deux.
Mais qu'avez-vous noté en étudiant le cas, par exemple, du Nigeria, oui, qui dépend du pétrole, exactement, ou bien du Mali qui dépend du sorgho, ou bien du Burkina qui dépend du coton? Qu'avez-vous constaté en étudiant ces cas?
Je prends le cas du Nigeria, le Nigérian qui dépend du pétrole. Quand le prix du pétrole était autour entre 100 et 150 dollars le baril, mais le pays, tout allait bien, c'est-à-dire il y avait de l'argent qui rentrait à cause des exportations du pétrole. Mais dès que le prix du pétrole a baissé, il est maintenant autour de 60$ le baril. Mais le pays a beaucoup souffert. Il a souffert parce que il avait beaucoup compté sur un prix du pétrole qui était au-delà de 100$ le baril. Il avait construit des budgets qui prenaient cela comme hypothèse. C'est pas que le Nigeria, c'est tous les pays qui exportent. L'Angola, même chose. Alors, ils ont dû réviser leurs prévisions. C'est-à-dire, il faut réduire les ambitions quand le prix du pétrole baisse. Alors que le Nigeria, c'est un pays qui a un grand potentiel agricole. C'est un pays qui peut nourrir même les pays de la région. Si on mettait beaucoup plus d'attention à l'agriculture, je sais qu'il y a des choses qui se font maintenant, surtout au niveau du riz. Je sais que le pays a fait beaucoup d'efforts pour la production du riz, parce que le Nigeria, il était autosuffisant au niveau du riz il y a plusieurs années. Maintenant, il faut peut-être retourner là-bas, penser à d'autres secteurs, penser à l'agriculture surtout, parce que c'est l'agriculture qui va nourrir les personnes. Quand il y a le pétrole, il faut distribuer les revenus du pétrole. Et c'est à ce niveau de la distribution où on a souvent des problèmes. Alors que l'agriculture, pour des économies rurales, des pays ruraux comme le Nigeria et d'autres pays africains, les gens vont produire eux-mêmes et ils vont satisfaire leurs besoins avec leur propre production. Ils vont pouvoir vendre et puis tout le monde va en bénéficier.
Dernière question, M. Kourounziza, c'est-à-dire au-delà de cette transformation structurelle que vous appelez de vos voeux, quels doivent être les contours de ces transformations structurelles? Est-ce à dire c'est par une meilleure bonne gouvernance de ces États ou bien un meilleur partage des richesses? Ou bien il faut aussi une politique fiscale plus offensive?
C'est tout cela à la fois. En fait, c'est pour cela qu'on a vraiment les études de cas qui sont diversifiées ici et qui, chaque étude a une particularité pour expliquer justement la question de la transformation structurelle. La transformation structurelle, c'est d'abord de bien la concevoir. Où est-ce qu'on veut aller? C'est-à-dire se fixer un cap, dire « moi, je veux aller là-bas ». Une fois que la décision est prise, évidemment, il faut une décision qui est raisonnable. Il ne faut pas dire que d'ici 5 ans, je veux tripler mon revenu par habitant. Ça, c'est pas crédible. Mais il faut que ce soit raisonnable. Et puis, alors, on essaie de se donner les moyens de le faire. Se donner les moyens, c'est quoi? C'est de mettre en place les différentes politiques, les différentes institutions qui vont vous aider à parvenir à votre objectif. Ça, c'est de la gouvernance. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, effectivement, que vous avez mentionné, c'est la redistribution. Parce qu'il y a un cas ici qu'on a bien analysé. Dans un pays qui a beaucoup bénéficié des prix des produits de base pendant la période du boom, les taux de croissance, je crois, frôlaient les 8% annuels sur une période d'à peu près 10 ans. Mais le taux de la pauvreté a aussi augmenté en même temps. C'est la Zambie qu'on couvre dans ce rapport. Et là, qu'est-ce qui a manqué? C'est justement une politique de redistribution. C'est-à-dire, ces revenus qui viennent, il faut les redistribuer pour pouvoir lutter contre la faim, parce que la malnutrition aussi a augmenté. Donc, ce n'est pas évident, parce qu'on a des flux qui viennent. Il faut vraiment avoir le cap, comme je disais. Il faut savoir exactement ce qu'on veut, où on veut aller et comment y aller. Donc, la redistribution, c'est une des politiques, mais aussi les politiques macroéconomiques, comme on les mentionne dans le rapport. La politique monétaire, politique fiscale, cela doit être bien pensé, bien mis en œuvre. Et puis aussi savoir qu'à la fin, il s'agit d'individus. Et donc, quand les prix chutent ou bien augmentent, par exemple, pour les ménages qui achètent de la nourriture, il y a des ménages qui sont frappés, les ménages qui sont des acheteurs nets de nourriture. Alors, il faut pouvoir les assister. C'est ce qu'a fait le Brésil, par exemple, avec Bolsa Família pour réduire la pauvreté. Et si vous ne faites rien, ces ménages, ils vont souffrir. Donc, il faut vraiment penser et au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique, parce qu'à la fin, ces chocs, les chocs de prix, vont frapper aussi les ménages et les entreprises, bien sûr. Pas seulement l'État au niveau agrégé. Donc, il faut réfléchir au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique de la politique qu'il faut mettre en place.
Merci beaucoup et merci d'avoir parlé à ONU Info.